Il est 19h à La Paz. Vous écoutez Radio France Internationale en direct de Paris où il est 1h. L'actualité du monde en 10 minutes sur la radio du monde. Delphine Liu. Bonsoir Delphine.
Bonsoir. À la une ce soir, tentative de coup d'État en Bolivie. Des soldats déployés dans le centre de la capitale se sont finalement retirés. On rejoint notre correspondant à La Paz dans quelques instants. C'était en septembre 2022 en Argentine. L'attentat raté contre Cristina Kirchner, alors vice-présidente. Le procès du principal accusé s'est ouvert ce mercredi à Buenos Aires. Noémie Leweller nous fera le récit de cette première journée d'audience. Les appels au boycott économique d'Israël commencent à peser sur l'économie du pays. Dernier épisode, le principal fonds de pension norvégien se désengage de l'américain Caterpillar qui fournit selon lui du matériel utilisé dans l'offensive à Gaza. Je vais lancer en titre. La Bolivie vient de passer quelques heures agitées. En début d'après-midi, des chars ont occupé la place Murillo où se trouvent le Parlement et le siège du gouvernement. Le président Arce et l'ancien président ont carrément évoqué une tentative de coup d'État. On rejoint notre correspondant Nils Sabin. Nils, les militaires se sont finalement retirés.
Oui, tout à fait. Alors vers 14h30, ces militaires bloquent l'accès à cette place qui est le centre politique de la Bolivie et ils tentent d'entrer de force dans le siège du gouvernement. Ces militaires sont menés par le commandant des armées Juan José Zúñiga qui déclare rapidement qu'il va sûrement y avoir un nouveau gouvernement et que le président Luis Arce est président pour le moment. Le président, lui, dénonce un coup d'État et appelle le peuple à se mobiliser pour la démocratie. Dans le pays, le mouvement n'est pas suivi. Les militaires restent dans leur cartel. Les anciens présidents Carlos Mesa et Evo Morales dénoncent eux aussi un coup d'État. Le principal syndicat bolivien déclare la grève générale pour soutenir le président Luis Arce. Alors que la confusion règne et que le mouvement ne se propage pas dans le reste du pays, le président nomme un nouveau chef des armées vers 17h. Celui-ci appelle les militaires présents sur la place Murillo à rentrer dans leur cartel immédiatement, ce qu'ils font peu après. Pour le moment, les raisons de cette tentative de coup d'État restent imprécises, mais il semblerait que la destitution ce matin de Juan José Zúñiga, qui était à la tête de ces militaires, soit à l'origine de ces événements.
Merci Nils Sabin, en direct de La Paz. L'extension de la guerre au Liban serait potentiellement apocalyptique. C'est l'avertissement lancé ce mercredi par l'ONU. Israël et le Hezbollah échangent en effet des tirs quasi quotidiens à la frontière avec le Liban. 5 personnes ont d'ailleurs été blessées ce soir dans une frappe aérienne dans le sud du pays, selon l'agence officielle libanaise ANI. Plusieurs pays, l'Allemagne aujourd'hui, le Canada hier notamment, appellent d'ailleurs leurs ressortissants à quitter le pays. Et puis dans le sud de la Syrie, cette fois, une autre frappe israélienne a fait 2 morts, selon l'agence officielle Sana. La frappe visait une fondation affiliée au Hezbollah et au groupe pro-iranien. Caterpillar, victime collatérale de la guerre entre Israël et Gaza, le principal fonds de pension de Norvège, exclut l'entreprise américaine de ses investissements. Raison invoquée, le groupe fournit à l'armée israélienne des engins pour son offensive à Gaza et pour coloniser la Cisjordanie et contribue ainsi aux violations des droits humains dans les 2 territoires. Donc, selon ce fonds de pension, cette annonce s'inscrit dans la vague d'appels au boycott financier d'Israël. Nicolas Feldman, ces désinvestissements commencent à peser sur l'économie.
Oui, les derniers chiffres pour le premier trimestre sont d'ailleurs assez alarmants. Un exemple, les investissements directs étrangers en Israël ont été divisés par 2 en un trimestre. Alors, cela s'explique évidemment par la guerre à Gaza. L'incertitude dissuade les investisseurs. Mais pour l'économiste Jacques Bendelak, cela montre aussi que l'appel au boycott affecte l'économie israélienne.
L'impact commence à se faire ressentir. Ce n'est plus un appel, ce sont des réalités. C'est bien entendu, en premier secteur, les technologies qui ont vu la levée de fonds des investissements étrangers chuter de moitié depuis le début de la guerre. Et puis, de façon générale, l'industrie, le commerce, les services. Donc, il y a aujourd'hui un retrait des investissements étrangers en Israël.
Autre conséquence de ce boycott, plusieurs pays ont arrêté leurs exportations vers Israël, c'est le cas de la Turquie, et cela fragilise le secteur, notamment de la construction déjà en difficulté.
Israël a acheté l'essentiel de ses matériaux de construction à la Turquie. Depuis quelques semaines, les matériaux n'arrivent plus et donc le secteur de la construction est quasiment à l'arrêt du fait de cette réaction de la Turquie, et sans parler des produits de consommation courante qui viennent aussi de la Turquie et qui se sont renchéris très rapidement. Donc l'élévation du coût de la vie que l'on connaît en Israël est aussi due à ce type de réaction comme celle de la Turquie.
Mais alors est-il possible de mettre fin à ce boycott d'Israël ? La seule solution, estime l'économiste, serait de répondre aux demandes des soutiens des Palestiniens, retrait de la bande de Gaza, libération des otages, des options aujourd'hui inenvisageables pour le gouvernement israélien d'extrême droite.
Une décision historique, la Cour d'appel de Paris a validé le mandat d'arrêt français visant le président syrien Bachar el-Assad. Pour la première fois, une juridiction nationale reconnaît que l'immunité personnelle d'un chef d'État en exercice n'est pas absolue. Bachar el-Assad est accusé de crimes contre l'humanité pour des attaques chimiques meurtrières perpétrées en août 2013. Les victimes et ONG françaises et syriennes, parties civiles dans ce dossier, applaudissent cette décision. Nouvelle tension en Asie du Sud-Est. La Corée du Nord dit avoir réussi un tir de missile à tête multiple. Pyongyang fait l'objet d'une série de sanctions de l'ONU depuis son deuxième essai nucléaire en 2009, mais poursuit le développement de ses programmes nucléaires et d'armement. Outre ses essais de missiles, Pyongyang a récemment innové dans ses méthodes pour importuner son voisin. Elle envoie quasiment quotidiennement de l'autre côté de la frontière des centaines de ballons chargés d'ordures et d'excréments d'animaux. L'attentat contre Christina Kirchner était un acte de justice. Déclaration du principal accusé dans le procès de l'attentat raté contre l'ex-vice-présidente argentine. Les faits remontent à septembre 2022 et le procès a démarré ce mercredi. Le récit de Noémie Leweller à Buenos Aires.
Devant les caméras, Fernando Sabag Montiel brandit une feuille de papier sur laquelle on peut lire « Il me séquestre ». Derrière lui, à distance, ses deux co-accusés, son ex-compagne Brenda Uliarte et son ex-patron Nicolas Carrisso, qui auraient pu coordonner l'attaque. Le 1er septembre 2022, Fernando Sabag Montiel attend Christina Kirchner devant son domicile, aux côtés de quelques sympathisants. Lorsqu'elle arrive, il s'approche et tente de tirer sur elle, mais le coup ne part pas. L'homme est rapidement contrôlé. Les messages échangés par téléphone entre les co-accusés, une série d'insultes lues ce matin dans la salle du tribunal de Buenos Aires, démontrent une véritable haine contre Christina Kirchner. Ils parlent aussi des détails de l'attaque. Ils comparaissent donc pour tentative de meurtre aggravé par l'usage d'une arme à feu et préméditation. Mais ont-ils agi seuls ? C'est ce que croit a priori le procureur, qui a écarté la piste d'un lien avec de potentiels opposants politiques, comme n'a cessé de le clamer l'ex-présidente péroniste d'alors. Près de 300 témoins vont défiler à la barre. Le procès devrait durer environ 6 mois.
Julian Assange, lanceur d'alerte, a pu rentrer dans son Australie natale après avoir plaidé coupable devant un tribunal des îles Mariannes. Cet accord scellé avec la justice américaine, Edward Snowden en rêve. L'ancien sous-traitant du renseignement américain avait transmis à la presse internationale des milliers de documents top secrets. Réfugié en Russie, il se cherche aussi une porte de sortie. Vincent Souriau.
Robert Thibault a été l'avocat d'Edward Snowden à partir de 2013. Obtenir un deal à la Julian Assange, Snowden en rêverait.
C'est une possibilité que M. Snowden explore depuis des années. Plaider coupable en échange d'une peine très courte. Mais légalement, ça n'a pas été possible parce que les États-Unis ne sont pas disposés à lui offrir cette procédure. Ils veulent un procès.
Si malgré tout il décidait de revenir sur le sol américain et de se présenter devant la justice, il ne serait pas en mesure de plaider sa cause devant un jury parce qu'il fait face à des accusations d'espionnage.
Monsieur Snowden ne pourrait pas expliquer ses motivations ou son système de pensée parce qu'en vertu des textes relatifs à l'espionnage, il a l'interdiction de le faire. Est-ce qu'il pourrait faire valoir le premier amendement et la liberté d'expression ? Non, pas dans ce cadre juridique. Le procureur n'aurait qu'à prouver qu'il a subtilisé des données, ce serait suffisant pour le condamner et l'envoyer en prison. Et ça peut aller jusqu'à 30 ans.
Un jour, conclut Robert Thibault, un gouvernement américain reconnaîtra peut-être qu'Edward Snowden a agi dans l'intérêt commun, mettra fin à cette saga et lui proposera un accord parce qu'il est toujours américain et que les États-Unis restent son pays.
C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans une petite heure. À suivre l'émission C'est pas du vent.
Thank you.